mais elle dérangea 100 fois, par des mouvements comme électriques, les heureuses combinaisons de sa coiffure, en mêlant des pensées encore orageuses à tous les soins de sa coquetterie. En crêpant les cheveux d'une boucle ou en rendant ses nattes plus brillantes, elle se demandait par un reste de défiance si le marquis ne la trompait pas, et alors elle pensait qu'une semblable rouerie devait être impénétrable, puisqu'il s'exposait audacieusement à une vengeance immédiate en venant la trouver à Fougères. En étudiant malicieusement à son miroir les effets d'un regard oblique, d'un sourire, d'un léger pli du front, d'une attitude de colère, d'amour ou de dédain, elle cherchait une ruse de femme pour sonder jusqu'au dernier moment le cœur du jeune chef. « Tu as raison, Francine, » dit-elle. « Je voudrais, comme toi, que ce mariage fût fait. » Ce jour est le dernier de mes jours nébuleux. Il est gros de ma mort ou de notre bonheur. Le brouillard est odieux, ajouta-t-elle en regardant de nouveau vers les sommets de Saint-Sulpice toujours voilés. Elle se mit à draper elle-même les rideaux de soie et de mousseline qui décoraient la fenêtre, en se plaisant à interpréter le jour de manière à produire dans la chambre un voluptueux clair-obscur. « Francine, dit-elle, ôte ces babioles qui encombrent la cheminée et n'y laisse que la pendule et les deux vases de Saxe dans lesquels j'arrangerai moi-même les fleurs d'hiver que Corentin m'a trouvées. Sors toutes les chaises, je ne veux voir ici que le canapé et un fauteuil. Quand tu auras fini, mon enfant, tu brosseras le tapis de manière à en ranimer les couleurs, puis tu garniras de bougies les bras de cheminée et les flambeaux. » Marie regarda longtemps et avec attention la vieille tapisserie tendue sur les murs de cette chambre. Guidée par un goût inné, elle sut trouver parmi les brillantes nuances de la haute lisse les teintes qui pouvaient servir à lier cette antique décoration aux meubles et aux accessoires de ce boudoir par l'harmonie des couleurs ou par le charme des oppositions. La même pensée dirigea l'arrangement des fleurs dont elle chargea les vases contournés qui ornaient la chambre. Le canapé fut placé près du feu. De chaque côté du lit, qui occupait la paroi parallèle à celle où était la cheminée, elle mit sur 2 petites tables dorées de grands vases de Saxe remplis de feuillages et de fleurs qui exhalèrent les plus doux parfums. Elle tressaillit plus d'une fois en disposant les plis onduleux du lampas vert au-dessus du lit et en étudiant les sinuosités de la draperie à fleurs sous laquelle elle le cacha. De semblables préparatifs ont toujours un indéfinissable secret de bonheur et amènent une irritation si délicieuse que souvent, au milieu de ces voluptueux apprêts, une femme oublie tous ses doutes, comme Mademoiselle de Verneuil oubliait alors les siens. N'existe-t-il pas un sentiment religieux dans cette multitude de soins pris pour un être aimé qui n'est pas là pour les voir et les récompenser, mais qui doit les payer plus tard par ce sourire approbateur qu'obtiennent ces gracieux préparatifs toujours si bien compris. Les femmes se livrent alors, pour ainsi dire, par avance à l'amour, et il n'en est pas une seule qui ne se dise, comme Mademoiselle de Verneuil le pensait, « Ce soir, je serai bien heureuse ». La plus innocente d'entre elles inscrit alors cette suave espérance dans les plis les moins saillants de la soie ou de la mousseline, puis insensiblement l'harmonie qu'elle établit autour d'elle imprime à tout une physionomie où respire l'amour. Au sein de cette sphère voluptueuse, pour elle, les choses deviennent des êtres, des témoins, et déjà elle en fait les complices de toutes ses joies futures. À chaque mouvement, à chaque pensée, elle s'enhardit à voler l'avenir. Bientôt elle n'attend plus, elle n'espère pas, mais elle accuse le silence, et le moindre bruit lui dit un présage. Enfin, le doute vient poser sur son cœur une main crochue. Elle brûle, elle s'agite, elle se sent tordue par une pensée qui se déploie comme une force purement physique. C'est tour à tour un triomphe et un supplice que sans l'espoir du plaisir, elle ne supporterait point. 20 fois, mademoiselle de Verneuil avait soulevé les rideaux dans l'espérance de voir une colonne de fumée s'élevant au-dessus des rochers. Mais le brouillard semblait de moment en moment prendre de nouvelles teintes grises dans lesquelles son imagination finit par lui montrer de sinistres présages. Enfin, dans un moment d'impatience, elle laissa tomber le rideau en se promettant bien de ne plus venir le relever. Elle regarda d'un air boudeur cette chambre à laquelle elle avait donné une âme et une voix, se demanda si ce serait en vain, et cette pensée la fit songer à tout. « Ma petite, » dit-elle à Francine en l'attirant dans un cabinet de toilette contigu à sa chambre et qui était éclairé par un œil de bœuf donnant sur l'angle obscur où les fortifications de la ville se joignaient aux rochers de la promenade. « Range-moi cela, que tout soit propre. Quant au salon, tu le laisseras si tu veux en désordre. » ajouta-t-elle en accompagnant ces mots d'un de ces sourires que les femmes réservent pour leur intimité et dont jamais les hommes ne peuvent connaître la piquante finesse. « Ah, combien vous êtes jolie !» s'écria la petite Bretonne. « Et folle que nous sommes toutes, notre amant ne sera-t-il pas toujours notre plus belle parure ?» Francine la laissa mollement coucher sur l'ottomane et se retira pas à pas en devinant que, aimée ou non, sa maîtresse ne livrerait jamais Montauran.
« Es-tu sûre de ce que tu me débites là, ma vieille ?» disait Hulot à Barbette, qui l'avait reconnue en entrant à Fougères.
« Avez-vous des yeux ? Tenez, regardez les rochers de Saint-Sulpice. Là, mon bonhomme, au drée de Saint-Léonard. » Corentin tourna les yeux vers le sommet, dans la direction indiquée par le doigt de Barbette, et comme le brouillard commençait à se dissiper, il put voir assez distinctement la colonne de fumée blanchâtre dont avait parlé la femme de Galop Chopine.
« Mais quand viendra-t-il, hé la vieille ? Sera-ce ce soir ou cette nuit ?»«
Mon bonhomme, » reprit Barbette, « je n'en sais rien. »«
Pourquoi trahis-tu ton parti ?»
dit vivement Hulot après avoir attiré la paysanne à quelques pas de Corentin.
« Ah, monseigneur le général, voyez le pied de mon gars. Eh ben, il est trempé dans le sang de mon homme, tué par l'échouin. » Sous votre respect, comme un veau, pour le punir des 3 mots que vous m'avez arrachés avant-hier quand je labourais. Prenez mon gars, puisque vous lui avez ôté son père et sa mère, mais faites-en un vrai bleu, mon bonhomme, et qu'il puisse tuer beaucoup de chouins. Tenez, voilà 200 écus, gardez-les lui. En les ménageant, il ira loin avec ça, puisque son père a été 12 ans à les amasser. »
Hulot regarda avec étonnement cette paysanne pâle et ridée dont les yeux étaient secs.
« Mais toi, dit-il, toi, la mère, que vas-tu devenir ? Il vaut mieux que tu conserves cet argent. »
« Moi ? Répondit-elle en branlant la tête avec tristesse. « Je n'ai plus besoin de rein. Vous me clencheriez au fin fond de la tour de Mélusine
et elle montra une des tours du château que les chouins seraient ben m'y venir tuer. Elle embrassa son gars avec une sombre expression de douleur, le regarda, versa deux larmes, le regarda encore et disparut.
« Commandant, dit Corentin, voici une de ces occasions qui, pour être mise à profit, demande plutôt deux bonnes têtes qu'une. Nous savons tout et nous ne savons rien. Faire cerner dès à présent la maison de Mademoiselle de Verneuil, ce serait la mettre contre nous. Nous ne sommes pas, toi, moi, tes contre-chouans et tes deux bataillons, de force à lutter contre cette fille-là si elle se met en tête de sauver son ci-devant. Ce garçon est un homme de cour et par conséquent rusé. C'est un jeune homme et il a du cœur. Nous ne pourrons jamais nous en emparer à son entrée à Fougères. Il s'y trouve d'ailleurs peut-être déjà. Faire des visites domiciliaires, absurdité. Ça n'apprend rien, ça donne l'éveil et ça tourmente les habitants.
« Je m'en vais, dit Hulot impatienté, donner au factionnaire du poste Saint-Léonard la consigne d'avancer sa promenade de trois pas de plus, et il arrivera ainsi en face de la maison de Mademoiselle de Verneuil. Je conviendrai d'un signe avec chaque sentinelle, je me tiendrai au corps de garde, et quand on m'aura signalé l'entrée d'un jeune homme quelconque, je prends un caporal et quatre hommes et...
« Et !» reprit Corentin en interrompant l'impétueux soldat. « Si le jeune homme n'est pas le marquis, si le marquis n'entre pas par la porte, s'il est déjà chez Mademoiselle de Verneuil, si... si... »
Là, Corentin regarda le commandant avec un air de supériorité qui avait quelque chose de si insultant que le vieux militaire s'écria
« Mille tonnerres de Dieu, va te promener, citoyen de l'enfer. Est-ce que tout cela me regarde? Si ce hanneton-là vient tomber dans un de mes corps de garde, il faudra bien que je le fusille. Si j'apprends qu'il est dans une maison, il faudra bien aussi que j'aille le cerner, le prendre et le fusiller. Mais du diable si je me creuse la cervelle pour mettre de la boue sur mon uniforme.
Commandant, la lettre des trois ministres t'ordonne d'obéir à Mademoiselle de Verneuil.
Citoyen, qu'elle vienne elle-même, je verrai ce que j'aurai à faire.
Eh bien, citoyen, répliqua Corentin avec hauteur, elle ne tardera pas. Elle te dira elle-même l'heure et le moment où le ci-devant sera entré. Peut-être même ne sera-t-elle tranquille que quand elle t'aura vu posant les sentinelles et cernant sa maison.
Le diable s'est fait homme,
se dit douloureusement le vieux chef de demi-brigade en voyant Corentin qui remontait à grands pas l'escalier de la reine où cette scène avait eu lieu et qui regagnait la porte Saint-Léonard.
Il me livrera le citoyen Montauran, pieds et poings liés, reprit Hulot en se parlant à lui-même, et je me trouverai embêté d'un conseil de guerre à présider. Après tout, dit-il en haussant les épaules, le gars est un ennemi de la République. Il m'a tué mon pauvre Gérard, et ce sera toujours un noble de moins. Au diable!
Il tourna lestement sur les talons de ses bottes et alla visiter tous les postes de la ville en sifflant la Marseillaise. Mademoiselle de Verneuil était plongée dans une de ces méditations dont les mystères restent comme ensevelis dans les abîmes de l'âme et dont les mille sentiments contradictoires ont souvent prouvé à ceux qui en ont été la proie qu'on peut avoir une vie orageuse et passionnée entre quatre murs sans même quitter l'ottomane sur laquelle se consume alors l'existence. Arrivée au dénouement du drame qu'elle était venue chercher, Cette fille en faisait tour à tour passer devant elle les scènes d'amour et de colère qui avaient si puissamment animé sa vie pendant les 10 jours écoulés depuis sa première rencontre avec le marquis. En ce moment, le bruit d'un pas d'homme retentit dans le salon qui précédait sa chambre. Elle tressaillit, la porte s'ouvrit. Elle tourna vivement la tête et vit Corentin. « Petite tricheuse !» dit en riant l'agent supérieur de la police. « L'envie de me tromper vous prendra-t-elle encore ?»« Ah, Marie, Marie, vous jouez un jeu bien dangereux en ne m'intéressant pas à votre partie, en décidant les coups sans me consulter. » Si le marquis a échappé à son sort, cela n'a pas été votre faute, n'est-ce pas ? Répondit mademoiselle de Verneuil avec une ironie profonde. Monsieur, reprit-elle d'une voix grave, de quel droit venez-vous encore chez moi ?
Chez vous ? Demanda-t-il d'un ton amer.
Vous m'y faites songer. Répliqua-t-elle avec noblesse. Je ne suis pas chez moi. Vous avez peut-être sciemment choisi cette maison pour y commettre plus sûrement vos assassinats. Je vais en sortir. J'irai dans un désert pour ne plus voir des espions. Dites, reprit Corentin. Mais cette maison n'est ni à vous ni à moi. Elle est au gouvernement. Et quant à en sortir, vous n'en feriez rien, ajouta-t-il en lui lançant un regard diabolique. Mademoiselle de Verneuil se leva par un mouvement d'indignation, s'avança de quelques pas, mais tout à coup elle s'arrêta en voyant Corentin qui releva le rideau de la fenêtre et se prit à sourire en l'invitant à venir près de lui. Voyez-vous cette colonne de fumée, dit-il avec le calme profond qu'il savait conserver sur sa figure blême, quelque profonde que fussent ses émotions. Quel rapport peut-il exister entre mon départ et de mauvaises herbes auxquelles on a mis le feu ? Demanda-t-elle. Pourquoi votre voix est-elle si altérée ? Reprit Corentin. Pauvre petite ! Ajouta-t-il d'une voix douce. « Je sais tout. Le marquis vient aujourd'hui à Fougères et ce n'est pas dans l'intention de nous le livrer que vous avez arrangé si voluptueusement ce boudoir, ses fleurs et ses bougies. » Mademoiselle de Verneuil pâlit en voyant la mort du marquis écrite dans les yeux de ce tigre à face humaine et ressentit pour son amant un amour qui tenait du délire. Chacun de ses cheveux lui versa dans la tête une atroce douleur qu'elle ne put soutenir. Elle tomba sur l'ottomane. Corentin resta un moment les bras croisés sur la poitrine, moitié content d'une torture qui le vengeait de tous les sarcasmes et du dédain par lequel cette femme l'avait accablé, moitié chagrin de voir souffrir une créature dont le joug lui plaisait toujours, quelque lourd qu'il fût. « Elle l'aime, » dit-il d'une voix sourde.
« L'aimer ? » s'écria-t-elle. « Et qu'est-ce que signifie ce mot, Corentin ? Il est ma vie, mon âme, mon souffle !» Elle se jeta aux pieds de cet homme dont le calme l'épouvantait. « Âme de boue ! » lui dit-elle. « J'aime mieux m'avilir pour lui obtenir la vie que de m'avilir pour la lui ôter. Je veux le sauver au prix de tout mon sang !» « Parle, que te faut-il ? »
Corentin tressaillit. « Je venais prendre vos ordres, Marie, » dit-il d'un son de voix plein de douceur, en la relevant avec une gracieuse politesse. « Oui, Marie, vos injures ne m'empêcheront pas d'être tout à vous, pourvu que vous ne me trompiez plus. Vous savez, Marie,
qu'on ne me dupe jamais impunément. Ah, si vous vouliez que je vous aime, Corentin, aidez-moi à le sauver.
Eh bien, à quelle heure vient le marquis ?
Dit-il en s'efforçant de faire cette demande d'un ton calme. Hélas, je n'en sais rien. Ils se regardèrent tous deux en silence. Je suis perdue, se disait mademoiselle de Verneuil.
Elle me trompe, pensait Corentin.
Marie, reprit-il, j'ai deux maximes. L'une, de ne jamais croire à un mot de ce que disent les femmes. C'est toujours le moyen de ne pas être leur dupe. L'autre, de toujours chercher si elles n'ont pas quelque intérêt à faire le contraire de ce qu'elles ont dit et à se conduire en sens inverse des actions dont elles veulent bien nous confier le secret. Je crois que nous nous entendons maintenant.
À merveille, répliqua mademoiselle de Verneuil.
Vous voulez des preuves de ma bonne foi, mais je les réserve pour le moment où vous m'en aurez donné de la vôtre.
Adieu, mademoiselle, dit sèchement Corentin.
Allons, reprit la jeune fille en souriant. Asseyez-vous, mettez-vous là et ne boudez pas. Sinon, je saurais bien me passer de vous pour sauver le marquis. Quant aux 300 000 francs que vous voyez toujours étalés devant vous, je puis vous les mettre en or, là, sur cette cheminée, à l'instant où le marquis sera en sûreté. Corentin se leva, recula de quelques pas et regarda mademoiselle de Verneuil.
Vous êtes devenue riche en peu de temps, dit-il d'un ton dont l'amertume était mal déguisée.
Mon torrent, reprit-elle en souriant de pitié, pourra vous offrir lui-même bien davantage pour sa rançon. Ainsi, prouvez-moi que vous avez les moyens de le garantir de tout danger et...
Ne pouvez-vous pas, s'écria tout à coup Corentin, le faire évader au moment même de son arrivée, puisque Hulot en ignore l'heure et...
Il s'arrêta comme s'il se reprochait à lui-même d'en trop dire.
Mais est-ce bien vous qui me demandez une ruse ?
Reprit-il en souriant de la manière la plus naturelle.
Écoutez, Marie, je suis certain de votre loyauté. Promettez-moi de me dédommager de tout ce que je perds en vous servant, et j'endormirai si bien cette buse de commandant que le marquis sera libre à Fougères comme à Sainte-Jeanne.
Je vous le promets, répondit la jeune fille avec une sorte de solennité.
Non, pas ainsi, reprit-il. Jurez-le-moi par votre mère.
Mademoiselle de Verneuil tressaillit, et, levant une main tremblante, elle fit le serment demandé par cet homme dont les manières venaient de changer subitement.
« Vous pouvez disposer de moi, dit Corentin. Ne me trompez pas, et vous me bénirez ce soir. »«
Je vous crois, Corentin, s'écria mademoiselle de Verneuil, tout attendrie. Elle le salua par une douce inclination de tête et lui sourit avec une bonté mêlée de surprise en lui voyant sur la figure une expression de tendresse mélancolique.
« Quelle ravissante créature !» s'écria Corentin en s'éloignant. « Ne l'aurais-je donc jamais pour en faire à la fois l'instrument de ma fortune et la source de mes plaisirs ?»
Se mettre à mes pieds, elle.
Oh oui, le marquis périra. Et si je ne puis obtenir cette femme qu'en la plongeant dans un bourbier, je l'y plongerai. Enfin, se dit-il à lui-même en arrivant sur la place où ses pas le conduisirent à son insu, elle ne se défie peut-être plus de moi. 100 000 écus, à l'instant, elle me croit avare. C'est une ruse où elle l'a épousée.
Corentin, perdu dans ses pensées, n'osait prendre une résolution. Le brouillard que le soleil avait dissipé vers le milieu du jour reprenait insensiblement toute sa force et devint si épais que Corentin n'apercevait plus les arbres même à une faible distance.
« Voilà un nouveau malheur !» se dit-il en rentrant à pas lents chez lui. « Il est impossible d'y voir à 6 pas. Le temps protège nos amants. Surveillez donc une maison gardée par un tel brouillard. »«
Qui vive ? » s'écria-t-il en saisissant le bras d'un inconnu qui semblait avoir grimpé sur la promenade à travers les roches les plus périlleuses.
« C'est moi !» répondit naïvement une voix enfantine.
« Hein ? C'est le petit gars aux pieds rouges. Ne veux-tu pas venger ton père ?» lui demanda Corentin.
« Oui !» dit l'enfant.
« C'est bien. Connais-tu le gars ?»«
Oui !»
« C'est encore mieux. Eh bien, ne me quitte pas. Sois exact à faire tout ce que je te dirai. » Tu achèveras l'ouvrage de ta mère et tu gagneras des gros sous. Aimes-tu les gros sous ?
Oui.
Tu aimes les gros sous et tu veux tuer le gars. Je prendrai soin de toi.
Allons, se dit en lui-même Corentin après une pause. Marie, tu nous le livreras toi-même. Elle est trop violente pour juger le coup que je m'en vais lui porter. D'ailleurs, la passion ne réfléchit jamais. Elle ne connaît pas l'écriture du marquis. Voici donc le moment de tendre un piège dans lequel son caractère la fera donner tête baissée. Mais pour assurer le succès de ma ruse, Hulot m'est nécessaire, et je cours le voir. »
En ce moment, Mademoiselle de Verneuil et Francine délibéraient sur les moyens de soustraire le marquis à la douteuse générosité de Corentin et aux baïonnettes de Hulot.
« Je vais aller le prévenir !» s'écria la petite Bretonne. « Folle, sais-tu où il est ? Moi-même, aidée par tout l'instinct du cœur, je pourrais bien le chercher longtemps sans le rencontrer. »
Après avoir inventé bon nombre de ces projets insensés, si faciles à exécuter au coin du feu, Mademoiselle de Verneuil s'écria « Quand je le verrai, son danger m'inspirera. » Puis elle se plut, comme tous les esprits ardents, à ne vouloir prendre son parti qu'au dernier moment, se fiant à son étoile ou à cet instinct d'adresse qui abandonne rarement les femmes. Jamais peut-être son cœur n'avait subi de si fortes contradictions. Tantôt elle restait comme stupide, les yeux fixes, et tantôt, au moindre bruit, elle tressaillait comme ces arbres presque déracinés que les bûcherons agitent fortement avec une corde pour en hâter la chute. Tout à coup, une détonation violente, produite par la décharge d'une douzaine de fusils, retentit dans le lointain. Mademoiselle de Verneuil pâlit, saisit la main de Francine et lui dit « Je meurs, ils me l'ont tué !» Le pas pesant d'un soldat se fit entendre dans le salon. Francine, épouvantée, se leva et introduisit un caporal. Le républicain, après avoir fait un salut militaire à Mademoiselle de Verneuil, lui présenta des lettres dont le papier n'était pas très propre. Le soldat, ne recevant aucune réponse de la jeune fille, lui dit en se retirant « Madame, c'est de la part du commandant. » Mademoiselle de Verneuil, en proie à de sinistres pressentiments, lisait une lettre écrite probablement à la hâte par Hulot. « Mademoiselle, mes contre-chouans viennent de s'emparer d'un des messagers du gars qui vient d'être fusillé.
Parmi les lettres interceptées, celle que je vous transmets peut vous être de quelque utilité, etc.
Grâce au ciel, ce n'est pas lui qu'ils viennent de tuer, s'écria-t-elle en jetant cette lettre au feu. Elle respira plus librement et lut avec avidité le billet qu'on venait de lui envoyer. Il était du marquis et semblait adressé à Madame Dugas.
Non, mon ange, je n'irai pas ce soir à la vivetière. Ce soir, vous perdez votre gageur avec le comte, et je triomphe de la République en la personne de cette fille délicieuse qui vaut certes bien une nuit, convenez-en. Ce sera le seul avantage réel que je remporterai dans cette campagne, car la Vendée se soumet. Il n'y a plus rien à faire en France, et nous repartirons sans doute ensemble pour l'Angleterre. Mais à demain, les affaires sérieuses. »
Le billet lui échappa des mains. Elle ferma les yeux, garda un profond silence et resta penchée en arrière, la tête appuyée sur un coussin. Après une longue pause, elle leva les yeux sur la pendule qui alors marquait 4 heures. « Et monsieur se fait attendre, » dit-elle avec une cruelle ironie.
« Oh, s'il pouvait ne pas venir !» reprit Francine.
« S'il ne venait pas ?» dit Marie d'une voix sourde. « J'irai au-devant de lui, moi. Mais non, il ne peut tarder maintenant. » « Francine, suis-je bien belle ?
Vous êtes bien pâle. »«
Vois, » reprit Mademoiselle de Verneuil, « cette chambre parfumée, ces fleurs, ces lumières, cette vapeur enivrante, tout ici pourra-t-il bien donner l'idée d'une vie céleste à celui que je veux plonger cette nuit dans les délices de l'amour ?
Qu'y a-t-il donc, mademoiselle ?
« Je suis trahie, trompée, abusée, jouée, rouée, perdue, et je veux le tuer, le déchirer. Mais oui, il y avait toujours dans ses manières un mépris qu'il cachait mal et que je ne voulais pas voir. Oh, j'en mourrais. Sotte que je suis, dit-elle en riant, il vient. » J'ai la nuit pour lui apprendre que, marié ou non, un homme qui m'a possédé ne peut plus m'abandonner. Je lui mesurerai la vengeance à l'offense, et il périra désespéré. Je lui croyais quelque grandeur dans l'âme, mais c'est sans doute le fils d'un laquais. Il m'a certes bien habilement trompé, car j'ai peine à croire encore que l'homme capable de me livrer à pille miche sans pitié puisse descendre à des fourberies dignes de Scapin. Il est si facile de se jouer d'une femme aimante que c'est la dernière des lâchetés. Qu'il me tue, bien, mais mentir, lui que j'ai tant grandi. À l'échafaud, à l'échafaud. « Ah, je voudrais le voir guillotiné. Suis-je donc si cruelle ? Il ira mourir couvert de caresses, de baisers qui lui auront valu 20 ans de vie. »«
Marie, » reprit Francine, avec une douceur angélique, « comme tant d'autres, soyez victime de votre amant, mais ne vous faites ni sa maîtresse ni son bourreau. » Gardez son image au fond de votre cœur, sans vous la rendre à vous-même cruelle. S'il n'y avait aucune joie dans un amour sans espoir, que deviendrions-nous, pauvres femmes que nous sommes ? Ce Dieu, Marie, auquel vous ne pensez jamais, nous récompensera d'avoir obéi à notre vocation sur la terre, aimer et souffrir.
Petite chatte, répondit Mademoiselle de Verneuil en caressant la main de Francine. Ta voix est bien douce et bien séduisante. La raison a bien des attraits sous ta forme. Je voudrais bien t'obéir.
Vous lui pardonnez ? Vous ne le livrerez pas ?
Tais-toi, ne me parle plus de cet homme-là. Comparé à lui, Corentin est une noble créature. Me comprends-tu ?
Elle se leva en cachant sous une figure horriblement calme et l'égarement qui la saisit et une soif inextinguible de vengeance. Sa démarche lente et mesurée annonçait je ne sais quoi d'irrévocable dans ses résolutions. En proie à ses pensées, dévorant son injure et trop fière pour avouer le moindre de ses tourments, elle alla au poste de la porte Saint-Léonard pour y demander la demeure du commandant. À peine était-elle sortie de sa maison que Corentin y entra.
« Oh, monsieur Corentin !» s'écria Francine. « Si vous vous intéressez à ce jeune homme, sauvez-le, mademoiselle va le livrer. Ce misérable papier a tout détruit. »
Corentin prit négligemment la lettre en demandant. « Et où est-elle allée ?»«
Je ne sais. »«
Je cours, » dit-il, « la sauver de son propre désespoir. » Il disparut en emportant la lettre, franchit la maison avec rapidité et dit au petit gars qui jouait devant la porte « Par où s'est dirigée la femme qui vient de sortir ?» Le fils de Galop-Chépine fit quelques pas avec Corentin pour lui montrer la rue en pente qui menait à la porte Saint-Léonard.
« C'est par là !»
dit-il sans hésiter, en obéissant à la vengeance que sa mère lui avait soufflée au cœur. En ce moment, quatre hommes déguisés entrèrent chez mademoiselle de Verneuil sans avoir été vus ni par le petit gars ni par Corentin.
« Retourne à ton poste, » répondit l'espion. « Aie l'air de t'amuser à faire tourner le loqueteau des persiennes, mais veille bien et regarde partout, même sur les toits. »
Corentin s'élança rapidement dans la direction indiquée par le petit gars, crut reconnaître mademoiselle de Verneuil au milieu du brouillard et la rejoignit effectivement au moment où elle atteignait le poste Saint-Léonard.
« Où allez-vous »
dit-il en lui offrant le bras. « Vous êtes pâle. Qu'est-il donc arrivé ? Est-il convenable de sortir ainsi toute seule ? Prenez mon bras. »
« Où est le commandant ? » lui demanda-t-elle.
À peine mademoiselle de Verneuil avait-elle achevé sa phrase qu'elle entendit le mouvement d'une reconnaissance militaire en dehors de la porte Saint-Léonard et distingua bientôt la grosse voix de Hulot au milieu du tumulte.
« Tonnerre de Dieu ! » s'écria-t-il. « Jamais je n'ai vu moins clair qu'en ce moment à faire la ronde. Ce ci-devant a commandé le temps.
De quoi vous plaignez-vous ? »
répondit mademoiselle de Verneuil en lui serrant fortement le bras. « Ce brouillard peut cacher la vengeance aussi bien que la perfidie. « Commandant, » ajouta-t-elle à voix basse, « il s'agit de prendre avec moi des mesures telles que le gars ne puisse pas échapper aujourd'hui.
« Est-il chez vous ? »
lui demanda-t-il d'une voix dont l'émotion accusait son étonnement. « Non, » répondit-elle. « Mais vous me donnerez un homme sûr et je l'enverrai pour avertir de l'arrivée de ce marquis.
« Qu'allez-vous faire ? »
dit Corentin avec empressement à Marie. « Un soldat chez vous l'effaroucherait, mais un enfant, et j'en trouverai un, n'inspirera pas de défiance. »«
Commandant, » reprit mademoiselle de Verneuil, « grâce à ce brouillard que vous maudissez, vous pouvez dès à présent cerner ma maison. Mettez des soldats partout. Placez un poste dans l'église Saint-Léonard pour vous assurer de l'esplanade sur laquelle donnent les fenêtres de mon salon. Apostez des hommes sur la promenade, car quoique la fenêtre de ma chambre soit à 20 pieds du sol, le désespoir prête parfois la force de franchir les distances les plus périlleuses. Écoutez, je ferai probablement sortir ce monsieur par la porte de ma maison. Ainsi, ne donnez qu'à un homme courageux la mission de la surveiller, car,
dit-elle en poussant un soupir. « On ne peut pas lui refuser de la bravoure, et il se défendra. »«
Gudin !» s'écria le commandant.
Aussitôt, le jeune Fougeret s'élança au milieu de la troupe revenue avec Hulot et qui avait gardé ses rangs à une certaine distance.
« Écoute, mon garçon, » lui dit le vieux militaire à voix basse, « ce tonnerre de fille nous livre le gars sans que je sache pourquoi. C'est égal, ça n'est pas notre affaire. » Tu prendras 10 hommes avec toi et tu te placeras de manière à garder le cul-de-sac au fond duquel est la maison de cette fille. Mais arrange-toi pour qu'on ne voie ni toi ni tes hommes.
Oui, mon commandant, je connais le terrain.
Eh bien, mon enfant, reprit Hulot, Beaupied viendra t'avertir de ma part du moment où il faudra jouer du bancal. Tâche de joindre toi-même le marquis, et si tu peux le tuer, afin que je n'aie pas à le fusiller juridiquement, tu seras lieutenant dans 15 jours, où je ne me nomme pas Hulot. Tenez, mademoiselle, voici un lapin qui ne boudera pas, dit-il à la jeune fille en lui montrant Gudin. Il fera bonne garde devant votre maison, et si le ci-devant en sort ou veut y entrer, il ne le manquera pas. »
Gudin partit avec une 10aine de soldats. « Savez-vous bien ce que vous faites ? » disait tout bas Corentin à mademoiselle de Verneuil. Elle ne lui répondit pas et vit partir avec une sorte de consentement les hommes qui, sous les ordres du sous-lieutenant, allèrent se placer sur la promenade et ceux qui, suivant les instructions de Hulot, se postèrent le long des flancs obscurs de l'église Saint-Léonard. « Il y a des maisons qui tiennent à la mienne, » dit-elle au commandant. « Cernez-les aussi. Ne nous préparons pas de repentir en négligeant une seule des précautions à prendre. »
« Elle est enragée, » pensa Hulot.
« Ne suis-je pas prophète ? » lui dit Corentin à l'oreille. « Quant à celui que je vais mettre chez elle, c'est le petit gars aux pieds sanglants. » Et ainsi, il n'acheva pas. Mademoiselle de Verneuil s'était, par un mouvement soudain, élancée vers sa maison, où il la suivit en sifflant comme un homme heureux. Quand il la rejoignit, elle avait déjà atteint le seuil de la porte où Corentin retrouva le fils de Galop Chepine. « Mademoiselle, lui dit-il, prenez avec vous ce petit garçon. Vous ne pouvez pas avoir d'émissaire plus innocent ni plus actif que lui. Quand tu auras vu le gars entrer, quelque chose qu'on te dise... « Sauve-toi, viens me trouver au corps de garde. Je te donnerai de quoi manger de la galette pendant toute ta vie. » À ces mots soufflés pour ainsi dire dans l'oreille du petit gars, Corentin se sentit presser fortement la main par le jeune Breton qui suivit mademoiselle de Verneuil. « Maintenant, mes bons amis, expliquez-vous quand vous voudrez. » s'écria Corentin quand la porte se ferma. « Si tu fais l'amour, mon petit marquis, ce sera ton suaire. » Mais Corentin, qui ne put se résoudre à quitter de vue cette maison fatale, se rendit sur la promenade où il trouva le commandant occupé à donner quelques ordres. Bientôt la nuit vint. 2 heures s'écoulèrent sans que les différentes sentinelles placées de distance en distance eussent rien aperçu qui pût faire soupçonner que le marquis avait franchi la triple enceinte d'hommes attentifs et cachés qui cernait les 3 côtés par lesquels la tour du Papegaut était accessible. 20 fois, Corentin était allé de la promenade au corps de garde. 20 fois son attente avait été trompée
et son jeune émissaire n'était pas encore venu le trouver. Abîmé dans ses pensées, l'espion marchait lentement sur la promenade en éprouvant le martyre que lui faisait subir trois passions terribles dans leur choc, l'amour, l'avarice, l'ambition. 8 heures sonnèrent à toutes les horloges. La lune se levait fort tard. Le brouillard et la nuit enveloppaient donc dans d'effroyables ténèbres les lieux où le drame conçu par cet homme allait se dénouer. L'agent supérieur de la police sut imposer silence à ses passions. Il se croisa fortement les bras sur la poitrine et ne quitta pas des yeux la fenêtre qui s'élevait comme un fantôme lumineux au-dessus de cette tour. Quand sa marche le conduisait du côté des vallées, au bord des précipices, il épiait machinalement le brouillard sillonné par les lueurs pâles de quelques lumières qui brillaient çà et là dans les maisons de la ville ou des faubourgs, au-dessus et au-dessous du rempart. Le silence profond qui régnait n'était troublé que par le murmure du nanson, par les coups lugubres et périodiques du beffroi, par les pas lourds des sentinelles ou par le bruit des armes quand on venait d'heure en heure relever les postes. Tout était devenu solennel, les hommes et la nature. « Il fait noir comme dans la gueule d'un loup, » dit en ce moment Pie Miche.
« Va toujours, » répondit Marche à terre, « et ne parle pas plus qu'un chien mort. »«
J'ose à peine respirer, » répliqua le chouan.
« Si celui qui vient de laisser rouler une pierre veut que son cœur serve de gaine à mon couteau, il n'a qu'à recommencer, » dit Marche à terre d'une voix si basse qu'elle se confondait avec le frissonnement des os du nanson.
« Mais c'est moi, » dit Pie Miche.
« Eh bien, vieux sac à sous, » reprit le chef, « glisse sur ton ventre comme une anguille de haie, sinon nous allons laisser là nos carcasses plutôt qu'il ne le faudra. »«
Hé, marche à terre !» dit en continuant l'incorrigible Pie Miche, qui céda de ses mains pour se hisser sur le ventre et arriva sur la ligne où se trouvait son camarade à l'oreille duquel il parla, d'une voix si étouffée, par lesquels ils étaient suivis, n'entendirent pas une syllabe. « Hé, marche à terre, s'il faut en croire notre grande garce, il doit y avoir un fier butin là-haut. Veux-tu faire part à nous deux ?»«
Écoute, Pie Miche, »
dit marche à terre en s'arrêtant à plat ventre. Toute la troupe imita ce mouvement, tant les chouans étaient excédés par les difficultés que le précipice opposait à leur marche.
« Je te connais, » reprit Marche à terre. « Pour être un de ces bons, j'en prends tout, qui aime autant donner des coups que d'en recevoir, quand il n'y a que cela à choisir. Nous ne venons pas ici pour chausser les souliers des morts. Nous sommes diable contre diable, et malheur à ceux qui auront les griffes courtes. La grande garce nous envoie ici pour sauver le gars. Il est là, tiens, lève ton nez de chien et regarde cette fenêtre au-dessus de la tour. »
En ce moment, minuit sonna. La lune se leva et donna au brouillard l'apparence d'une fumée blanche. Pie Miche serra violemment le bras de marche à terre et lui montra silencieusement, à 10 pieds au-dessus d'eux, le fer triangulaire de quelques baïonnettes luisantes.
« Les bleus y sont déjà, » dit Pie Miche. « Nous n'aurons rien de force. »«
Patience, » répondit marche à terre. « Si j'ai bien tout examiné ce matin, nous devons trouver au bas de la tour du Papegaud, entre les remparts et la promenade, une petite place où l'on met toujours du fumier et l'on peut se laisser tomber là-dessus comme sur un lit. »«
Si Saint-Labre, » dit Pie Miche,
Vous les changez en bon cidre, le sang qui va couler, les fougerets en trouveraient demain une bien bonne provision. » Marchater couvrit de sa large main la bouche de son ami, puis un avis sourdement donné par lui courut de rang en rang jusqu'au dernier des chouans suspendus dans les airs sur les brouillères des schistes. En effet, Corentin avait une oreille trop exercée pour n'avoir pas entendu le froissement de quelques arbustes tourmentés par les chouans ou le bruit léger des cailloux qui roulèrent au bas du précipice, et il était au bord de l'esplanade. Marchater, qui semblait posséder le don de voir dans l'obscurité, ou dont les sens continuellement en mouvement devaient avoir acquis la finesse de ceux des sauvages, avait entrevu Corentin. Comme un chien bien dressé, peut-être l'avait-il senti. Le diplomate de la police eut beau écouter le silence et regarder le mur formé par les schistes, il n'y put rien découvrir. Si la lueur douteuse du brouillard lui permit d'apercevoir quelques chouans, il les prit pour des fragments du rocher, tant ces corps humains gardèrent bien l'apparence d'une nature inerte. Le danger de la troupe dura peu. Corentin fut attiré par un bruit très distinct qui se fit entendre à l'autre extrémité de la promenade, au point où cessait le mur de soutènement et où commençait la pente rapide du rocher. Un sentier tracé sur le bord des schistes et qui communiquait à l'escalier de la reine aboutissait précisément à ce point d'intersection. Au moment où Corentin y arriva, il vit une figure s'élevant comme par enchantement, et quand il avança la main pour s'emparer de cet être fantastique ou réel auquel il ne supposait pas de bonnes intentions, il rencontra les formes rondes et moelleuses d'une femme. « Que le diable vous emporte, ma bonne !» dit-il en murmurant. « Si vous n'aviez pas eu affaire à moi, vous auriez pu attraper une balle dans la tête !» « Mais d'où venez-vous et où allez-vous à cette heure-ci? Êtes-vous muette? C'est cependant bien une femme, » se dit-il à lui-même. Le silence devenant suspect, l'inconnu répondit d'une voix qui annonçait un grand effroi. « Ah, mon bonhomme, je revenons de la veillée !»« C'est la prétendue mère du marquis, » se dit Corentin. « Voyons ce qu'elle va faire. »« Eh bien, allez par là, la vieille !» reprit-il à haute voix en feignant de ne pas la reconnaître. « À gauche, donc, si vous ne voulez pas être fusillée. » Il resta immobile, mais en voyant Madame Dugas qui se dirigea vers la tour du Papegaud, il la suivit de loin avec une adresse diabolique. Pendant cette fatale rencontre, les chouans s'étaient très habilement postés sur les tas de fumier vers lesquels Marchater les avait guidés. « Voilà la grande garce !» se dit tout bas Marchater en se dressant sur ses pieds le long de la tour, comme aurait pu faire un ours. « Nous sommes là !» dit-il à la dame. « Bien !» répondit Madame Dugas. « Si tu peux trouver une échelle dans la maison dont le jardin aboutit à 6 pieds au-dessous du fumier, le gars serait sauvé. Vois-tu cet œil de bœuf là-haut? Il donne dans un cabinet de toilette attenant à la chambre à coucher. C'est là qu'il faut arriver. Ce pan de la tour au bas duquel vous êtes est le seul qui ne soit pas cerné. Les chevaux sont prêts, et si tu as gardé le passage du Nançon, en un quart d'heure nous devons le mettre hors de danger malgré sa folie. Mais si cette catin veut le suivre, poignardez-la !» Corentin, apercevant dans l'ombre quelques-unes des formes indistinctes qu'il avait d'abord prises pour des pierres, se mouvoir avec adresse,
alla sur-le-champ au poste de la porte Saint-Léonard, où il trouva le commandant dormant, tout habillé, sur le lit de camp.
« Laissez-le donc !» dit brutalement Beaupied à Corentin. « Il ne fait que se reposer là !»«
Les chouans sont ici !» cria Corentin dans l'oreille de Hulot.
« Impossible, mais tant mieux !» s'écria le commandant, tout endormi qu'il était. « Au moins, on se battra !»
Lorsque Hulot arriva sur la promenade, Corentin lui montra dans l'ombre la singulière position occupée par les chouans.
« Ils auront trompé ou étouffé les sentinelles que j'ai placées entre l'escalier de la reine et le château !» s'écria le commandant. « Ah, quel tonnerre de brouillard ! Mais patience ! Je vais envoyer au pied du rocher une cinquantaine d'hommes sous la conduite d'un lieutenant. Il ne faut pas les attaquer là, car ces animaux-là sont si durs qu'ils se laisseraient rouler jusqu'en bas du précipice comme des pierres, sans se casser un membre. »
La cloche fêlée du beffroi sonna 2 heures, lorsque le commandant revint sur la promenade, après avoir pris les précautions militaires les plus sévères afin de saisir les chouans commandés par Marchater. En ce moment, tous les postes ayant été doublés, la maison de Mademoiselle de Verneuil était devenue le centre d'une petite armée. Le commandant trouva Corentin absorbé dans la contemplation de la fenêtre qui dominait la tour du Papegaud.
« Citoyen, lui dit Hulot, je crois que le ci-devant nous embête, car rien n'a encore bougé. »«
Il est là !» s'écria Corentin en montrant la fenêtre. « J'ai vu l'ombre d'un homme sur les rideaux. Je ne comprends pas ce qu'est devenu mon petit gars. Ils l'auront tué ou séduit. » « Tiens, commandant, vois-tu ? Voici un homme ! Marchons !»«
Je n'irai pas le saisir au lit, tonnerre de Dieu ! Il sortira s'il est entré. Gudin ne le manquera pas !» s'écria Hulot, qui avait ses raisons pour attendre.
« Allons, commandant, je t'enjoins, au nom de la loi, de marcher à l'instant sur cette maison !»
« Tu es encore un joli coco pour me vouloir faire aller !»
Sans s'émouvoir de la colère du commandant, Corentin lui dit froidement
« Tu m'obéiras ! Voici un ordre en bonne forme, signé du ministre de la guerre, qui t'y forcera » reprit-il, en tirant de sa poche un papier. « Est-ce que tu t'imagines que nous sommes assez simples pour laisser cette fille agir comme elle l'entend ? C'est la guerre civile que nous étouffons, et la grandeur du résultat absout la petitesse des moyens.
Je prends la liberté, citoyen, de t'envoyer faire. Tu me comprends ? Suffit, pars du pied gauche, laisse-moi tranquille et plus vite que ça.
Mélie ! Dit Corentin.
Ne m'embête pas de tes fonctions.
S'écria Hulot, indigné de recevoir des ordres d'un être qu'il trouvait si méprisable. En ce moment, le fils de Galop-Chepine se trouva au milieu d'eux comme un rat qui serait sorti de terre.
« Le gars est en route » s'écria-t-il.
« Par où ?»«
Par la rue Saint-Léonard. »«
Beaupied !»
dit Hulot à l'oreille du caporal qui se trouvait auprès de lui.
« Cours prévenir ton lieutenant de s'avancer sur la maison et de faire un joli petit feu de fil. Tu m'entends ?»«
Par fil à gauche, en avant sur la tour, vous autres !» cria le commandant.
Pour la parfaite intelligence du dénouement, il est nécessaire de rentrer dans la maison de Mademoiselle de Verneuil avec elle. Quand les passions arrivent à une catastrophe, elles nous soumettent à une puissance d'enivrement bien supérieure aux mesquines irritations du vin ou de l'opium. La lucidité que contractent alors les idées, la délicatesse des sens trop exaltés, produisent les effets les plus étranges et les plus inattendus. En se trouvant sous la tyrannie d'une même pensée,
certaines personnes aperçoivent clairement les objets les moins perceptibles, tandis que les choses les plus palpables sont pour elles comme si elles n'existaient pas. Mademoiselle de Verneuil était en proie à cette espèce d'ivresse qui fait de la vie réelle une vie semblable à celle des somnambules, lorsqu'après avoir lu la lettre du marquis, elle s'empressa de tout ordonner pour qu'il ne pût échapper à sa vengeance. Comme naguère, elle avait tout préparé pour la première fête de son amour. Mais quand elle vit sa maison soigneusement entourée par ses ordres d'un triple rang de baïonnettes, une lueur soudaine brilla dans son âme. Elle jugea sa propre conduite et pensa avec une sorte d'horreur qu'elle venait de commettre un crime. Dans un premier mouvement d'anxiété, elle s'élança vivement vers le seuil de sa porte et y resta pendant un moment immobile en s'efforçant de réfléchir sans pouvoir achever un raisonnement. Elle doutait si complètement de ce qu'elle venait de faire qu'elle chercha pourquoi elle se trouvait dans l'antichambre de sa maison en tenant un enfant inconnu par la main. Devant elle, des milliers d'étincelles nageaient en l'air comme des langues de feu. Elle se mit à marcher pour secouer l'horrible torpeur dont elle était enveloppée. Mais semblable à une personne qui sommeille, aucun objet ne lui apparaissait avec sa forme ou ses couleurs vraies. Elle serrait la main du petit garçon avec une violence qui ne lui était pas ordinaire. Elle entraînait par une marche si précipitée qu'elle semblait avoir l'activité d'une folle. Elle ne vit rien de tout ce qui était dans le salon quand elle le traversa, et cependant elle y fut saluée par trois hommes qui se séparèrent pour lui donner passage. « La voici, » dit l'un d'eux. « Elle est bien belle, » s'écria le prêtre. « Oui, » répondit le premier, « mais comme elle est pâle et agitée. » « Et distraite, » ajouta le troisième, « elle ne nous voit pas. » À la porte de sa chambre, mademoiselle de Verneuil aperçut la figure douce et joyeuse de Francine qui lui dit à l'oreille « Il est là, Marie. » Mademoiselle de Verneuil se réveilla, put réfléchir, regarda l'enfant qu'elle tenait, le reconnut et répondit à Francine « Enferme ce petit garçon, et si tu veux que je vive, garde-toi bien de le laisser s'évader. » En prononçant ces paroles avec lenteur, elle avait fixé les yeux sur la porte de sa chambre, où ils restèrent attachés avec une si effrayante immobilité qu'on eût dit qu'elle voyait sa victime à travers l'épaisseur des panneaux. Elle poussa vivement la porte et la ferma sans se retourner, car elle aperçut le marquis debout devant la cheminée. Sans être trop recherchée, la toilette du gentilhomme avait un certain air de fête et de parure qui ajoutait encore à l'éclat que toutes les femmes trouvent à leur amant. À cet aspect, mademoiselle de Verneuil retrouva toute sa présence d'esprit. Ses lèvres, fortement contractées, quoique entr'ouvertes, laissèrent voir l'émail de ses dents blanches et dessinèrent un sourire arrêté dont l'expression était plus terrible que voluptueuse. Elle marcha d'un pas lent vers le jeune homme et lui montrant du doigt la pendule. « Un homme digne d'amour vaut bien la peine qu'on l'attende, » dit-elle avec une fausse gaieté. Mais abattue par la violence de ses sentiments, elle tomba sur le sofa qui se trouvait auprès de la cheminée. « Ma chère Marie, vous êtes bien séduisante quand vous êtes en colère, » dit le marquis en s'asseyant auprès d'elle, lui prenant une main qu'elle laissa prendre et implorant un regard qu'elle refusait. « J'espère, continua-t-il d'une voix tendre et caressante, que Marie sera dans un instant bien chagrine d'avoir dérobé sa tête à son heureux mari. »
En entendant ces mots, elle se tourna brusquement et le regarda dans les yeux. « Que signifie ce regard terrible ? » reprit-il en riant. « Mais ta main est brûlante, mon amour, qu'as-tu ? » « Mon amour ? » répondit-elle d'une voix sourde et altérée. « Oui ! » dit-il en se mettant à genoux devant elle et lui prenant les deux mains qu'il couvrit de baisers. « Oui, mon amour, je suis à toi pour la vie. » Elle le poussa violemment et se leva. Ses traits se contractèrent. Elle rit comme rit les fous et lui dit « Tu n'en crois pas à un mot, homme plus fourbe que le plus ignoble scélérat !» Elle sauta vivement sur le poignard qui se trouvait auprès d'un vase de fleurs et le fit briller à deux doigts de la poitrine du jeune homme surpris. « Bah ! » dit-elle en jetant cette arme, « je ne t'estime pas assez pour te tuer. Ton sang est même trop vil pour être versé par des soldats et je ne vois pour toi que le bourreau. » Ces paroles furent péniblement prononcées d'un ton bas et elle trépignait des pieds comme un enfant gâté qui s'impatiente. Le marquis s'approcha d'elle en cherchant à la saisir. « Ne me touchez pas ! » s'écria-t-elle en se reculant par un mouvement d'horreur. « Elle est folle !» se dit le marquis au désespoir. « Oui, folle !» répéta-t-elle. « Mais pas encore assez pour être ton jouet ! Que ne pardonnerais-je pas à la passion ? Mais vouloir me posséder sans amour et l'écrire à cette... À qui donc ai-je écrit ? Demanda-t-il avec un étonnement qui certes n'était pas joué. À cette femme chaste qui voulait me tuer ? Là, le marquis pâlit, serra le dos du fauteuil qu'il tenait de manière à le briser et s'écria « Si Madame Dugas a été capable de quelque noirceur !» Mademoiselle de Verneuil chercha la lettre, ne la retrouva plus, appela Francine et la Bretonne vint. « Où est cette lettre ? Monsieur Corentin l'a prise. »« Corentin ? Ah, je comprends tout ! Il a fait la lettre et m'a trompée comme il trompe, avec un art diabolique !» Après avoir jeté un cri perçant, elle alla tomber sur le sofa et un déluge de larmes sortit de ses yeux. Le doute, comme la certitude, était horrible. Le marquis se précipita aux pieds de sa maîtresse, la serra contre son cœur en lui répétant 10 fois ces mots, les seuls qu'il put prononcer. « Pourquoi pleurer, mon ange ? Où est le mal ? Tes injures sont pleines d'amour. Ne pleure donc pas. Je t'aime toujours. » Tout à coup, il se sentit pressé par elle avec une force surnaturelle et au milieu de ses sanglots. « Tu m'aimes encore ? » dit-elle. « Tu en doutes ? » répondit-il d'un ton presque mélancolique. Elle se dégagea brusquement de ses bras et se sauva, comme effrayée et confuse, à 2 pas de lui. « Si j'en doute !» s'écria-t-elle. Elle vit le marquis souriant avec une si douce ironie que les paroles expirèrent sur ses lèvres. Elle se laissa prendre par la main et conduire jusque sur le seuil de la porte. Marie aperçut au fond du salon un autel dressé à la hâte pendant son absence. Le prêtre était en ce moment revêtu de son costume sacerdotal. Des cierges allumés jetaient sur le plafond un éclat aussi doux que l'espérance. Elle reconnut dans les 2 hommes qui l'avaient salué le comte de Beauvent et le baron du Guénic, 2 témoins choisis par Montauran. « Me refuseras-tu toujours ? » lui dit tout bas le marquis. À cet aspect, elle fit tout à coup un pas en arrière pour regagner sa chambre, tomba sur ses genoux, leva les mains vers le marquis et lui cria « Ah,
pardon, pardon, pardon !»
Sa voix s'éteignit, sa tête se pencha en arrière, ses yeux se fermèrent, et elle resta entre les bras du marquis et de Francine, comme si elle eût expiré. Quand elle ouvrit les yeux, elle rencontra le regard du jeune chef, un regard plein d'une amoureuse bonté.
« Marie, patience, cet orage est le dernier, » dit-il.
« Le dernier ? » répéta-t-elle. Francine et le marquis se regardèrent avec surprise, mais elle leur imposa silence par un geste. « Appelez le prêtre, » dit-elle, « et laissez-moi seule avec lui. » Ils se retirèrent.
« Mon père, » dit-elle au prêtre qui apparut soudain devant elle,
« mon père, dans mon enfance, un vieillard à cheveux blancs, semblable à vous, me répétait souvent qu'avec une foi bien vive, on obtenait tout de Dieu. Est-ce vrai ?»«
C'est vrai, » répondit le prêtre. « Tout est possible à celui qui a tout créé. »
Mademoiselle de Verneuil se précipita à genoux avec un incroyable enthousiasme.
« Oh mon Dieu !» dit-elle dans son extase. « Ma foi en toi est égale à mon amour pour lui. Inspire-moi, fais ici un miracle ou prends ma vie. »«
Vous serez exaucée, » dit le prêtre. Mademoiselle de Verneuil vint s'offrir à tous les regards en s'appuyant sur le bras de ce vieux prêtre à cheveux blancs. Une émotion profonde et secrète la livrait à l'amour d'un amant, plus brillante qu'en aucun jour passé, car une sérénité, pareille à celle que les peintres se plaisent à donner aux martyrs, imprimait à sa figure un caractère imposant. Elle tendit la main au marquis et ils s'avancèrent ensemble vers l'autel où ils s'agenouillèrent. Ce mariage, qui allait être béni à deux pas du lit nuptial, cet autel élevé à la hâte, cette croix, ces vases, ce calice apporté secrètement par un prêtre, cette fumée d'encens répandue sous des corniches qui n'avaient encore vu que la fumée des repas, ce prêtre qui ne portait qu'une étole par-dessus sa soutane, ses cierges dans un salon, tout formait une scène touchante et bizarre qui achève de peindre sept ans de triste mémoire où la discorde civile avait renversé les institutions les plus saines. Les cérémonies religieuses avaient alors toute la grâce des mystères. Les enfants étaient ondoyés dans les chambres où gémissaient entre les mères. Comme autrefois, le Seigneur allait, simple et pauvre, consoler les mourants. Enfin, les jeunes filles recevaient pour la première fois le pain sacré dans le lieu même où elles jouaient la veille. L'union du marquis et de mademoiselle de Verneuil allait être consacrée, comme tant d'autres unions, par un acte contraire à la législation nouvelle. Mais plus tard, ces mariages, bénis pour la plupart au pied des chaînes, furent tous scrupuleusement reconnus. Le prêtre, qui conservait ainsi les anciens usages jusqu'au dernier moment, était un de ces hommes fidèles à leurs principes au fort des orages. Sa voix, pure du serment exigé par la République, ne répandait à travers la tempête que des paroles de paix. Il n'attisait pas, comme l'avait fait l'abbé Gudin, le feu de l'incendie, mais il s'était, avec beaucoup d'autres, voué à la dangereuse mission d'accomplir les devoirs du sacerdoce pour les âmes restées catholiques. Afin de réussir dans ce périlleux ministère, il usait de tous les pieux artifices nécessités par la persécution, et le marquis n'avait pu le trouver que dans une de ces excavations qui, de nos jours encore, porte le nom de la cachette du prêtre.
La vue de cette figure pâle et souffrante inspirait si bien la prière et le respect qu'elle suffisait pour donner à cette salle mondaine l'aspect d'un saint lieu. L'acte de malheur et de joie était tout prêt. Avant de commencer la cérémonie, le prêtre demanda, au milieu d'un profond silence, les noms de la fiancée. Marie Nathalie, fille de Mademoiselle Blanche de Gastéran, décédée abbesse de Notre-Dame de Sèze, et de Victor Amédée, duc de Verneuil, née à la Chasterie près d'Alençon.
Je ne croyais pas, dit tout bas le baron au comte, que Montauran ferait la bêtise de l'épouser. La fille naturelle d'un duc, fi donc.
Si c'était un roi, encore passe, répondit le comte de Beauvan en souriant, mais ce n'est pas moi qui le blâmerais. L'autre me plaît, et ce sera sur cette jument de charrette que je vais maintenant faire la guerre. Elle ne roucoule pas, celle-là.
Les noms du marquis avaient été remplis à l'avance. Les deux amants signèrent et les témoins après. La cérémonie commença. En ce moment, Marie entendit seule le bruit des fusils et celui de la marche lourde et régulière des soldats qui venaient sans doute relever le poste des bleus qu'elle avait fait placer dans l'église. Elle tressaillit et leva les yeux sur la croix de l'autel. La voilà. « Une sainte, » dit tout bas Francine.
« Qu'on me donne de ces saintes-là, et je serai diablement dévot, » ajouta le comte à voix basse.
Lorsque le prêtre fit à Mademoiselle de Verneuil la question d'usage, elle répondit par un « oui » accompagné d'un soupir profond. Elle se pencha à l'oreille de son mari et lui dit « Dans peu, vous saurez pourquoi je manque au serment que j'avais fait de ne jamais vous épouser. » Lorsque, après la cérémonie, l'assemblée passa dans une salle où le dîner avait été servi, et au moment où les convives s'assirent, Jérémie arriva tout épouvanté. La pauvre mariée se leva brusquement, alla au-devant de lui, suivie de Francine, et sur un coup de ces prétextes que les femmes savent si bien trouver, elle pria le marquis de faire tout seul les honneurs du repas et emmena le domestique avant qu'il eût commis une indiscrétion qui serait devenue fatale.
« Ah, Francine, se sentir mourir et ne pas pouvoir dire « je meurs !» s'écria Mademoiselle de Verneuil qui ne reparut plus.
Cette absence pouvait trouver sa justification dans la cérémonie qui venait d'avoir lieu. À la fin du repas et au moment où l'inquiétude du marquis était au comble, Marie revint dans tout l'éclat du vêtement des mariés. Sa figure était joyeuse et calme, tandis que Francine, qui l'accompagnait, avait une terreur si profonde empreinte sur tous les traits qu'il semblait aux convives voir dans ces deux figures un tableau bizarre où l'extravagant pinceau de Salvator Rosa aurait représenté la vie et la mort se tenant par la main. « Messieurs, dit-elle au prêtre, au baron, au comte, « vous serez mes hôtes pour ce soir, car il y aurait trop de danger pour vous à sortir de Fougères. Cette bonne fille a mes instructions et conduira chacun de vous dans son appartement. « Pas de rébellion, dit-elle au prêtre qui allait parler. « J'espère que vous ne désobéirez pas à une femme le jour de ses noces. » Une heure après, elle se trouva seule avec son amant dans la chambre voluptueuse qu'elle avait si gracieusement disposée.
ils arrivèrent enfin à ce lit fatal où, comme dans un tombeau, se brisent tant d'espérances, où le réveil à une belle vie est si incertain, où meurt ou naît l'amour, suivant la portée des caractères qui ne s'éprouvent que là. Marie regarda la pendule et se dit « 6 heures à vivre ».
J'ai donc pu dormir ? S'écria-t-elle vers le matin, réveillée en sursaut par un de ces mouvements soudains qui nous font tressaillir lorsqu'on a fait la veille un pacte en soi-même afin de s'éveiller le lendemain à une certaine heure.
« Oui, j'ai dormi !» se répéta-t-elle en voyant, à la lueur des bougies, que l'aiguille de la pendule allait bientôt marquer 2 heures du matin. Elle se retourna et contempla le marquis, endormi, la tête appuyée sur une de ses mains, à la manière des enfants, et de l'autre serrant celle de sa femme, en souriant à demi, comme s'il se fût endormi au milieu d'un baiser.
« Ah !» se dit-elle à voix basse, « il a le sommeil d'un enfant, mais pouvait-il se défier de moi qui lui dois un bonheur sans nom ?» Elle le poussa légèrement, il se réveilla et acheva de sourire. Il baisa la main qu'il tenait et regarda cette malheureuse femme avec des yeux si étincelants que, n'en pouvant soutenir le voluptueux éclat, elle déroula lentement ses larges paupières comme pour s'interdire à elle-même une dangereuse contemplation. Mais en voilant ainsi le feu de ses regards, elle excitait si bien le désir en paraissant s'y refuser que si elle n'avait pas eu de profonde terreur à cacher, son mari aurait pu l'accuser d'une trop grande coquetterie. Ils relevèrent ensemble leurs têtes charmantes et se firent mutuellement un signe de reconnaissance plein des plaisirs qu'ils avaient goûtés. Mais après un rapide examen du délicieux tableau que lui offrait la figure de sa femme, le marquis, attribuant à un sentiment de mélancolie les nuages répandus sur le front de Marie, lui dit d'une voix douce « Pourquoi cette ombre de tristesse, mon amour ?
Pauvre Alphonse, où crois-tu donc que je t'ai mené ? Demanda-t-elle en tremblant.
Au bonheur,
à la mort.
Et tressaillant d'horreur, elle s'élança hors du lit. Le marquis, étonné, la suivit. Sa femme l'amena près de la fenêtre. Après un geste délirant qui lui échappa, Marie releva les rideaux de la croisée et lui montra du doigt sur la place une 20aine de soldats. La lune, ayant dissipé le brouillard, éclairait de sa blanche lumière les habits, les fusils, l'impassible Corentin qui allait et venait comme un chacal attendant sa proie, et le commandant, les bras croisés, immobile, le nez en l'air, les lèvres retroussées, attentif et chagrin. Hé, laissons-les, Marie, et reviens.
Pourquoi ris-tu, Alphonse ? C'est moi qui les ai placés là.
Tu rêves ?
Non !
Ils se regardèrent un moment. Le marquis devina tout et la serra dans ses bras. « Va, je t'aime toujours, » dit-il.
« Tout n'est donc pas perdu ? » s'écria Marie. « Alphonse, » dit-elle après une pause, « il y a de l'espoir. »
En ce moment, ils entendirent distinctement le cri sourd de la chouette, et Francine sortit tout à coup du cabinet de toilette.
« Pierre est là !» dit-elle avec une joie qui tenait du délire. La marquise et Francine revêtirent Montauran d'un costume de chouan avec cette étonnante promptitude qui n'appartient qu'aux femmes. Lorsque la marquise vit son mari
occupé à charger les armes que Francine apporta, elle s'esquiva lestement après avoir fait un signe d'intelligence à sa fidèle bretonne. Francine conduisit alors le marquis dans le cabinet de toilette attenant à la chambre. Le jeune chef, en voyant une grande quantité de draps fortement attachés, put se convaincre de l'active sollicitude avec laquelle la bretonne avait travaillé à tromper la vigilance des soldats. « Jamais je ne pourrai passer par là !» dit le marquis en examinant l'étroite baie de l'œil de bœuf. En ce moment, une grosse figure noire en remplit entièrement l'ovale et une voix rauque, bien connue de Francine, cria doucement « Dépêchez-vous, mon général, ces crapauds de bleu se remuent !»«
Oh, encore un baiser !» dit une voix tremblante et douce.
Le marquis, dont les pieds atteignaient l'échelle libératrice, mais qui avait encore une partie du corps engagée dans l'œil de bœuf, se sentit pressé par une étreinte de désespoir. Il jeta un cri en reconnaissant ainsi que sa femme avait pris ses habits. Il voulut la retenir, mais elle s'arracha brusquement de ses bras et il se trouva forcé de descendre. Il gardait à la main un lambeau d'étoffe, et la lueur de la lune venant à l'éclairer soudain, il s'aperçut que ce lambeau devait appartenir au gilet qu'il avait porté la veille.
« Halte ! Feu de peloton !»
Ces mots, prononcés par Hulot au milieu d'un silence qui avait quelque chose d'horrible, rompirent le charme sous l'empire duquel semblaient être les hommes et les lieux. Une salve de balles arrivant du fond de la vallée jusqu'au pied de la tour succéda aux décharges que firent les bleus placés sur la promenade. Le feu des républicains n'offrit aucune interruption et fut continuel, impitoyable. Les victimes ne jetèrent pas un cri. Entre chaque décharge, le silence était effrayant. Cependant, Corentin, ayant entendu tomber du haut de l'échelle un des personnages aériens qu'il avait signalé au commandant, soupçonna quelques pièges. « Pas un de ces animaux-là ne chante, » dit-il à Hulot. « Nos deux amants sont bien capables de nous amuser ici par quelques ruses, tandis qu'ils se sauvent peut-être par un autre côté. » L'espion, impatient d'éclaircir le mystère, envoya le fils de Galop-Chopine chercher des torches. La supposition de Corentin avait été si bien comprise de Hulot que le vieux soldat, préoccupé par le bruit d'un engagement très sérieux qui avait lieu devant le poste de Saint-Léonard, s'écria « C'est vrai, ils ne peuvent pas être deux !» Et il s'élança vers le corps de garde. « On lui a lavé la tête avec du plomb, mon commandant !» lui dit Beaupied, qui venait à la rencontre de Hulot. « Mais il a tué Gudin et blessé deux hommes !» Ah, l'enragé! Il avait enfoncé trois rangées de nos lapins et aurait gagné les champs sans le factionnaire de la porte Saint-Léonard qui l'a embroché avec sa baïonnette. En entendant ces paroles, le commandant se précipita dans le corps de garde et vit sur le lit de camp un corps ensanglanté que l'on venait d'y placer. Il s'approcha du prétendu marquis, leva le chapeau qui en couvrait la figure et tomba sur une chaise. « Je m'en doutais !» s'écria-t-il en se croisant les bras avec force. « Elle l'avait, sacré tonnerre, gardé trop longtemps !» Tous les soldats restèrent immobiles. Le commandant avait fait dérouler les longs cheveux noirs d'une femme. Tout à coup, le silence fut interrompu par le bruit d'une multitude armée. Corentin entra
dans le corps de garde en précédant 4 soldats qui, sur leurs fusils placés en forme de civière, portaient Montauran, auquel plusieurs coups de feu avaient cassé les 2 cuisses et les bras. Le marquis fut déposé sur le lit de camp auprès de sa femme. Il l'aperçut et trouva la force de lui prendre la main par un geste convulsif. La mourante tourna péniblement la tête, reconnut son mari, frissonna par une secousse horrible à voir et murmura ces paroles d'une voix presque éteinte. « Un jour sans lendemain, Dieu m'a trop bien exaucé. » « Commandant, dit le marquis en rassemblant toutes ses forces et sans quitter la main de Marie, je compte sur votre probité pour annoncer ma mort à mon jeune frère qui se trouve à Londres. Écrivez-lui que s'il veut obéir à mes dernières paroles, il ne portera pas les armes contre la France, sans néanmoins jamais abandonner le service du roi.
« Ce sera fait, » dit Hulot en serrant la main du mourant.
« Portez-les à l'hôpital voisin !» s'écria Corentin. Hulot prit l'espion par le bras, de manière à lui laisser l'empreinte de ses ongles dans la chair, et lui dit « Puisque ta besogne est finie par ici, fiche-moi le camp et regarde bien la figure du commandant Hulot pour ne jamais te trouver sur son passage si tu ne veux pas qu'il fasse de ton ventre le fourreau de son bancal. » Et déjà le vieux soldat tirait son sabre. « Voilà encore un de ces honnêtes gens qui ne feront jamais fortune !» se dit Corentin quand il fut loin du corps de garde. Le marquis put encore remercier par un signe de tête son adversaire en lui témoignant cette estime que les soldats ont pour de loyaux ennemis. En 1827, un vieil homme, accompagné de sa femme, marchandait des bestiaux sur le marché de Fougères, et personne ne lui disait rien, quoiqu'il eût tué plus de 100 personnes. On ne lui rappelait même point son surnom de marchataire. La personne à qui l'on doit de précieux renseignements sur tous les personnages de cette scène le vit emmenant une vache et allant de cet air simple, ingénu, qui allait dire « Voilà bien, brave homme !» Quant à Cibot, dit Pilleux Miche, on a déjà vu comment il a fini. Peut-être marche à terre, essaya-t-il, mais vainement, d'arracher son compagnon à l'échafaud, et se trouvait-il sur la place d'Alençon lors de l'effroyable tumulte qui fut un des événements du fameux procès Rifoël, Brion et la Chanterie. Fougères, août 1827.